Donc, on est avec Fred Cham, Joseph Roussin, Briac. T'as un nom de famille ?
C'est mon prénom, si tu veux. Non, c'est mon prénom.
Ouais, c'est ton prénom.
Ah, tu veux mon nom de famille ? Oui, Briac Agresti Biagi.
Donc, Briac.
Voilà, parfait.
On peut s'arrêter à Bri, parce que moi-même, Briac, c'est compliqué. Quoi.
En prénom, on t'annonce comment sur scène ? Si tu passes après moi,
je Briac.
Juste Briac, ouais, c'est vrai que
ouais, c'est vrai que c'est même c'est même mes cachets sont au nom de Briac, c'est déposé, voilà.
Moi j'ai le problème inverse de toi, c'est quand je dis aux gens vous m'annoncez juste comme Mo, ça crée un interrogatoire de 10 minutes sur pourquoi tu t'appelles Mo, c'est quoi. Du coup je dis Mo Moran et en général ça résout le problème. Je suis obligé de dire mon nom de famille.
Et tant qu'on te confond pas avec Moadji, ça va. Hein,
ah oui, Moadji, ouais. Ah, t'as bossé avec lui, non, c'est ça?
Ouais,
je vais te regarder là, c'est peut-être plus sympa.
Non, il n'y a pas de souci. Comme tu regardais, c'est comme si tu me regardais en face.
Et là, tu as l'impression que tu ne te regardes pas?
Ah, j'ai l'impression, je vois. Non, je vois le dos de Richard Sabac.
toi, c'est quoi en termes de plan, Sarah, le mieux pour toi? Qu'on le regarde là sur l'ordi? Ok. Ok, bon, on va regarder où vous voulez, en vrai, on s'en fout. C'est un test. C'est un épisode zéro, ok, on teste le concept, on teste le lieu.
Trop bien.
Et voilà, et donc tu parlais de Moadji, ouais, donc t'as bossé avec lui, c'est ça?
Ouais, j'ai bossé avec lui En fait, je connais depuis plus de 10 ans, puisqu'on a bossé à la base sur une sitcom, et c'est lui qui m'a présenté Jérémy Ferrari à l'époque. Et c'est un peu ça qui m'avait mis le pied à l'étrier dans l'histoire de l'humour, quoi.
Ah, c'est lui qui t'a lancé un petit peu?
Ouh là là, non. Non, il y a 10 ans, moi j'ai écrit une sitcom et les producteurs m'ont dit, on a ce mec, Moadji, qui travaille dans les télécoms, il connaît beaucoup d'humoristes. Il me présente ce jeune comédien qui est Jérémy Ferrari, qui à l'époque n'est rempli pas et est vraiment dans un certain désespoir. Moi, okay. Je le casse sur la série.
C'est avant Ondar, c'est ça? Avant
exactement, la série ne se fait pas. Et on lui propose, nous on devient assez potes parce qu'il fait du jujitsu et quand je monte à Paris, on s'entraîne ensemble. Et il y a ce truc, on demande qu'à en rire, qu'on lui propose. Et il se dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Il avait beaucoup de scrupules à faire cette émission. Et j'ai dit, ben moi j'ai un a priori positif sur la télé, fais-le. Ça... De toute façon, tu remplis pas, un jour tu vas arrêter de faire des spectacles parce que personne te connaît. Et il a fait, on demande qu'à en rire, il a eu la carrière qu'on connaît. Et voilà, c'était par l'intermédiaire effectivement de Moadji à l'époque. Et j'ai retrouvé Moadji à la télévision sur Énorme TV par quelques années plus tard.
Quoi. Ah, c'est ça, tu m'avais dit que tu avais bossé à Énorme TV. D'ailleurs,
j'ai produit quelques émissions à Énorme TV. Non, ça n'existe plus, ils ont fait une semi-faillite. Ils me rediffusent toujours, mais ils ne me payent plus. Donc j'estime que ça n'existe plus. Quoi.
C'est pratique, ça est faillite. Ouais, tu parlais en demande carrière, vous l'auriez fait vous si ça existait encore?
Moi, je pense, alors, il y a un côté, c'est un peu kiffant, l'idée de. Comme défi, en fait. C'est un peu kiffant. Je trouve ça assez intéressant.
Donc, c'est quoi ton. Tu choisis pas ton premier sketch, c'est ça? On ne demande qu'à en rire. C'est eux qui te donnent
exactement.
Le sujet.
Exactement. Qui te donnent le thème, ouais.
Ok, donc on va essayer d'imaginer deux sujets pour Fred. Et on va voir lequel il va choisir. Donc, c'est quoi les actus, un petit peu en ce moment? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?
Le réchauffement climatique.
Ouais, donc t'es allé sur une actu hyper large.
Vraiment.
c'est beaucoup plus précis. Et deux, si Fred il fait demain, on demande qu'à en rire, il va choisir un sujet qui lui plaît bien. Il va dire je veux ça. On va lui dire non, mais c'est pas toi, c'est Olivier Debenois qui va faire ça. Tu vas prendre le deuxième sujet, on va dire non, ça c'est les Lascargais qui vont faire ça. Et en fait, toi, tu as vraiment, quand tu commences, tu as ce qui reste.
Ok, donc ce serait quoi le pire sujet pour faire On demande qu'à en rire? Harvey Weinstein.
Non, une naine se fait passer pour une petite fille.
Ah ouais, c'est des trucs de merde comme ça.
Ça, c'est typique.
Ok, allez, allons-y, Fred. Okay. Donc, c'est quoi ta démarche quand tu dois préparer une naine se fait passer pour une petite
fille? Alors, je joue le personnage d'un humoriste qui va voir le producteur et qui dit, en fait, j'arrête.
Puis Jérémy Ferrari, c'est pourri comme nom, je comprends pas pourquoi vous m'avez donné ce pseudo.
Non mais par contre je vois comment je vois en quoi ça aurait pu être vraiment un thème dans l'émission et je vois genre Je vois bien un humoriste que je connais pas beaucoup faire un personnage.
Ouais.
Genre, qui se fait passer pour un enfant. Et...
Mais d'ailleurs, elle est horrible, cette histoire de, d'enfant là, qui était dans une famille. Alors, en fait, c'était une meuf qui avait 30 ans, là.
Ouais, non, je crois qu'aux dernières nouvelles, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était... Alors, je n'ai pas tout fact-checké, mais apparemment, c'était juste une enfant qui avait une maladie qui la vieillissait sans la grandir. Et les parents ont essayé un peu de s'en débarrasser en prétextant, genre, finalement, c'était une adulte qui se cachait.
Ah
et,
bon
du coup, c'est genre juste une histoire horrible de bout en bout.
Ah ouais, putain,
parce qu'après, il y a eu une bonne attachée de presse. Hein.
Parce qu'il y a eu plusieurs...
Je crois que c'est elle qui a inventé cette histoire. Hein.
J'ai lu beaucoup d'articles dessus, moi.
Et... Ah, tu prépares en demandant qu'à rire.
Non, okay. C'est parce que c'est à l'époque où on écrivait des chroniques avec Rémi, on devait, enfin, on voulait écrire une chronique sur ça. Mais du coup, on avait un peu lu. Et il me semble qu'en fait, il y a des scientifiques, il y a des médecins qui disent que non, c'est une enfant. Il y a des médecins qui disent que non, c'est une adulte. Et il y en a qui disent, en fait, vu les dents qu'elle a, c'est pas possible que ce soit une enfant. Enfin, il y a, en fait, personne ne sait.
C'est,
quoi.
C'est des scientifiques ou c'est des scientifiques qui lisent le journal et qui essaient d'avoir un avis dessus?
C'est genre, t'as vu comment je suis renseigné? J'ai lu plein d'articles dessus. Des scientifiques.
Ce serait tellement un épisode de Dr. House tout pourri.
Les gens, clairement, c'est une adulte. Voilà. C'est...
Il reste tout l'épisode devant juste son écran d'ordi. Il fait, je pense, je vais regarder d'autres photos, je vais faire une recherche. C'est une adulte.
Oh là là.
Je boite.
Et donc... Mais on demande qu'à en rire, les gars. Je pense que, typiquement, celui qui a le plus de succès d'un truc comme ça, Froussin, par exemple, il pourrait faire 50 épisodes de On demande qu'à en rire parce qu'il a un personnage qui est tellement clair. Il va arriver avec un système et c'est exactement ce qu'il demande.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Du coup, tu peux arriver par exemple avec un personnage et tous tes sketchs tournent autour de ce personnage.
Olivier de Benoît.
Ok, ouais.
Ouais
et donc, typique, hein. On a Ruquier en direct qui va intervenir. Il est tout à fait intéressé par. Toi, tu as bossé récemment avec Rémi à la télé sur
ouais,
tes chroniques
mais, ouais, mais pendant très, très peu de temps. Juste pendant un mois. Et après, on a été virés.
Tu peux raconter
carrière à la télévision. On a été virés. Parce que,
ils ont essayé d'écrire une blague sur une petite fille qui...
qui fait on demande quand... Pardon.
En fait, on l'a fait. C'était assez court. C'était pour une petite pastille sur l'actualité. C'était tous les jours. Et on devait écrire pour des comédiens qui le disaient.
C'est quoi la pastille?
C'était HF. C'est la pastille de Hakim Gemini Camara. Okay.
Et du coup, là, il la continue, mais sans vous.
Ouais, c'est ça. Et le premier générique où il y a eu nos noms en tant qu'auteur, ils ont fait une faute à mon nom et à celui de Rémi.
Classique.
Ils m'ont appelé Joseph Froussin. Et j'étais là, bon. Mais non. C'est un peu de ma faute. Tu as vraiment d'avoir un personnage, tu as presque le même nom que moi. Du coup, personne ne sait comment je m'appelle.
Ils t'ont pas appelé José Froussin.
Non,
comme
ils sont
dans la blague éponyme.
Ouais. Ils ont fact-checké genre son prénom, mais c'est tout.
Ils ont dû taper dans Google en fait. Et le truc qui ressort le plus,
ouais,
ça doit être ton podcast.
Ouais. Ah bah ouais.
Sûrement, maintenant,
ouais.
Google corrige les gens quand on tape ton nom. Ils corrigent les gens en disant non, c'est ce personnage. Ouais. C'est...
Mais du coup, il faudrait que tu changes de nom de scène en fait.
Et que je m'appelle comment du coup?
Froussin du coup.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Que tu fasses que des enquêtes.
Faut que je devienne détective en fait. Faut que t'arrêtes. Ah merde. Eh ben, changement de carrière assez drastique quoi. Alors bon, je vais résoudre des enquêtes maintenant. Parce que les gens sont persuadés, c'est vrai.
Tu pourrais résoudre des enquêtes dans le milieu de l'humour. Ça pourrait être un spin-off des aventures de Froussin.
C'est vrai, ouais. Après,
parce qu'il y a plein d'enquêtes à mener dans le monde de l'humour.
Est-ce que vous avez vu hier soir le soutien d'Anne Romanoff à Copy Comique?
Ah non.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben, c'est apparu sur le site Google. Anne Romanoff qui se déclare officiellement pour Copy Comique et qui dit qu'elle-même a été beaucoup pillée par une certaine humoriste étrangère et que voilà qu'elle apporte officiellement son soutien à Copy Comique.
Ok.
C'est, donc on est tous d'accord pour dire que l'humour. C'est Anne Romanoff Copy Comique.
Le mystère est résolu.
Mais en plus, pour avoir beaucoup parlé à Copy Comique, parce que j'ai eu des problèmes par rapport à ça, donc j'ai beaucoup parlé sur Twitter. En vrai, ça m'étonne pas
oui,
du
oui.
tout. Non, j'ai des heures et des heures de conversation par message, parce que du coup, il répond pas ni au téléphone, ni enfin bref, c'est anonyme. Et en vrai, ça m'étonnerait pas du tout dans sa façon de parler que ce soit Anne Romanoff. Genre, à un moment, j'ai fait une référence à VG Dream dans la conversation.
Bon. Si elle a dit sale nègre, c'est elle. Hein. Ouais,
mais elle a pas, elle a pas, elle a, je crois qu'elle a, elle, du coup, elle, je dis elle, mais pour dire copie comique. Non, mais je sais pas pourquoi on dit il, il depuis le début. Et donc, je sais plus, elle a dû répondre, enfin, il, je ne sais pas qui est ce VG Dream, entre guillemets, mais j'ai écouté ce son et c'était vraiment agréable, un truc vraiment.
Ok, bah c'est un Romanov, c'est vrai.
Ouais, clairement.
Il n'y a, plus, y a pas, pas d'autres questions à poser.
C'est sûr, c'est pas un jeune.
Ça, ça devrait être le titre de ce podcast. Genre, et même de tous les épisodes, ça devrait être Anne Romanoff et Copy Comic.
Ah, tu le tues le référencement, hein. Tu le...
C'est sûr.
Faudrait voir peut-être que l'avocat de... Parce qu'il y a un avocat officiel de Copy Comic, je sais pas si vous avez vu ça.
Ouais.
Un gars qui fait tous les plateaux télé et qui parle en son nom.
Ok, je savais pas.
Ok, c'est... cet avocat est Copy Comic.
Et c'est Anne Romanoff d'Élysée.
Et peut-être que si tu regardes qui il a eu comme client avant, peut-être que tu peux créer une... Faut demander à Froussin.
C'est... Je ne suis pas vraiment détective, encore une fois. ouais, peut-être, je ne sais pas, mais en même temps, est-ce que c'est important de savoir qui c'est cette personne aussi.
Ah non, c'est clair, c'est juste marrant.
Oui, c'est juste marrant.
Moi, c'est juste ça me fait rire.
Oui, bah oui, c'est... les blagues à chaque fois, c'est genre vraiment... À chaque... ah, les comédiens à chaque fois, c'est « Ah, c'est... on sait, c'est toi. »
Genre, ouais, c'est ça.
Genre, pas toi, toi.
Non, bah ça, à chaque fois, on me fait la blague.
Ça, ça on sait, c'est pas toi. Mais à chaque fois, ouais, tu croises un comédien, clairement, c'est Coffee Community, tu machin, parce que c'est l'ego, quoi.
Il y avait même un gars, moi, que je soupçonnais à un moment quand j'étais au Québec, qui est archiviste pour juste pour rire. J'ai oublié son nom, mais genre, c'est un gars qui vit dans sa cave, il a des millions de vidéos d'humour américain dans toutes les langues. Et genre, il est archiviste et il passe ses journées à faire ça. Je me suis dit, genre, ce serait le gars parfait pour, dans le rôle de Copy Comic.
Peut-être que c'est genre sa femme. Ouais. Lui, il sait pas en fait que.
Mais tu sais que pendant longtemps, j'ai pensé que c'était ma femme. Hein. Je me disais, ça se trouve, la nuit, elle se lève et elle me gâche la vie.
C'est génial.
Et en fait, non, elle me trompait juste.
Mais Copy Comic, c'est marrant parce qu'il a. Parce que quand tu fais le profil, tu t'aperçois qu'il faut certaines qualités, dans des qualités de monteur. Et ce n'est pas de monteur technique, c'est de technique, c'est de, plutôt de théorie du montage.
Ouais, de storytelling.
Ouais, parce que c'est quand même, il a posé un format qui est très facile à refaire, mais c'est parce qu'il a tellement bien posé, il a créé le truc, et c'est comme bref. Ouais, bref, tu peux refaire bref demain, mais il fallait avoir l'idée de que t'es comme ça.
C'est clair.
Et là, quand je fais le portrait au mot, mais tu sais, un mec qui a compris le montage dans la théorie, dans la pratique, quand tu lui parles, il a des vrais codes de l'internet, mais qui sont limite chiants, quoi. Mais bah, c'est normal, il se protège, il fait des choses. Et je me dis, putain, il y a tout un portrait robot et j'aimerais savoir qui c'est. Et à côté, j'aimerais ne pas le savoir parce que je veux jamais qu'on sache qui c'est ce mec-là, parce que je veux qu'il soit tranquille toute sa vie, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est clair.
Après, moi, j'avoue que si jamais, genre. Genre, on sait toujours pas qui c'est. Quand je suis sur mon lit de mort, j'avoue que c'est moi. Clairement.
Ah, ce serait génial. Ouais. On te crache dessus. Tu as ton indigole qui arrive.
Ça va être l'enterrement le plus tendu du monde de l'humour.
Copie caca, va.
Et pour revenir à la télé, donc ça a duré un mois. C'était ta première expérience sur une chaîne ou...
Ouais, sur un truc qui a été diffusé, ouais.
Ça se passait à Canal du coup ou c'était...
Non, c'était à Click.
C'était à Click, ouais, ils sont dépendants de Canal.
Ouais, 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 y a un studio, d'ailleurs c'est pratique parce qu'il est, il est à Paris, il n'est pas à Boulogne.
C'est... Ouais, bah ouais, grave, c'est à moins Bastille, loin. C'est ça
ouais. Ouais. C'est ça, ouais.
J'étais allé une fois.
Ouais, bah il est assez cool, c'est un tout petit, le studio est tout petit, mais c'est vraiment. C'est
très, très... Par rapport à ici, c'est beaucoup plus grand.
Putain, je me souviens plus. Je n'ai pas beaucoup sur le studio, moi. J'étais en haut dans la salle.
Mais du coup, ça te donnait envie de rebosser sur des formats comme ça ou pour la télé ou pas du tout?
Ouais, oui et non. Je sais pas, c'est intéressant. En fait, l'exercice est intéressant. Après, le milieu est compliqué, quoi. Mais,
la politique autour, tout ça.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est vraiment... Mais c'est le... En même temps, c'est le métier d'auteur en général. C'est pas la meilleure place du monde quand t'es pas connu.
Je pense que c'est lié au métier d'auteur, pas forcément auteur pour la télé. C'est une problématique globale. Même si t'es auteur, je sais pas, juste de stand-up ou de livres ou de.
Ouais, je pense. Après, en fait, ça dépend. À mon avis, auteur de stand-up, ça dépend si tu bosses pour. C'est après, si t'es indépendant et tu bosses pour toi, auteur de stand-up, au final, t'as moins d'inconvénients que. Enfin, t'en as. Enfin, si, évidemment, t'en as, mais c'est des inconvénients différents que si t'es auteur avec une boîte de prod et tout comme ça. C'est juste que moi, je sais que. Enfin, pour les boîtes de prod, pour les projets de séries que j'ai essayé de développer ou des trucs comme ça, pour lesquels je bossais, qui n'ont pas forcément été diffusés, mais que. J'ai été payé, donc. Mais que ouais, c'est vraiment genre t'es au bas du bas de l'échelle, quoi. On s'en fout de toi, on te le rappelle souvent, et généralement on essaie de t'arnaquer sur l'argent parce qu'on sait que t'en as besoin, donc tu vas le faire quand même, quoi. Mais voilà, le show business, ça t'a gavé ou pas?
C'est vrai que moi, pour avoir bossé pour Canal aussi sur un autre programme qui était vraiment cool à faire, c'était le dézapping sur les émissions qui s'appelait le
Moi, j'ai
before
été
du grand
refusé du
moment.
dézapping.
Toi, t'as refusé?
J'ai présenté plein de scénarios, plein d'épisodes. Mais au lieu de présenter une blague ou deux, j'ai présenté vraiment des numéros complets. Et toute la chaîne disait OK. Et c'est le mec qui gérait ça, le directeur écriture, qui à chaque fois me refusait. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais il faut l'accepter, quoi.
Ouais, c'est pareil, c'est à la fois, je pense, un côté politique, peut-être aussi de ton. Moi, je sais que nous, on a été, enfin, je l'ai fait avec, à l'époque, c'était avec Urbain et Rachid, qui étaient mes. On bossait ensemble sur l'écriture, on avait monté une boîte un peu de conception-rédaction. Et on était acceptés, mais c'est vrai qu'on ne comprenait pas les blagues qui étaient validées, celles qui n'étaient pas validées, quoi. C'était vraiment. C'était le directeur d'écriture et sa vision. Et aussi la vision de pendant la lecture. Tu vois, et c'était encore pire. Après, j'avais fait Scène de ménage sur M6. Et là, c'est un autre niveau. C'est les acteurs qui choisissent limite tes
Ouais.
textes, quoi. Ils font une lecture et en gros, si l'acteur il aime pas ton texte, il va mal le lire. S'il est mal lu, le réal va l'entendre mal. Et
Et
du coup, il va pas le valider, tu vois. Et en plus, il y avait ce truc où moi j'arrivais en tant que nouvel auteur, donc c'était un nouveau nom qu'ils voyaient pas, qu'ils avaient jamais vu avant sur les textes. T'es pas là pour défendre ton texte. Et du coup, ils voient un nouveau nom, ils commencent à avoir peur, les gars. Tu vois, ils se disent, c'est qui ce gars qui écrit des trucs? Est-ce que ça va être dans le ton? Est-ce que ça va moi en tant qu'acteur me mettre en avant,
Ouais.
etc. Du coup, t'as ce truc compliqué. C'était après c'était mieux beaucoup c'était le truc le mieux payé que j'ai fait. Enfin, j'ai pas été payé, mais si j'avais eu un texte
C'est le boulot
diffusé,
qui m'a fait
si
miroiter le plus d'argent.
ouais. C'est
C'est pas
exactement
mal.
ça. C'est exactement ça.
Mais les chaînes, vous savez, elles savent que les auteurs, ils sont mal perçus aujourd'hui en France. Elles savent que les chaînes savent déjà qu'ils maltraitent les auteurs. Et il y a quelques. Moi, ça m'est arrivé, directeur de chaîne qui avait pris conscience de ça, qui ont dit, ben, on va changer la donne. On va faire des pools d'auteurs. C'était Comedy Plus il y a quelques années qui voulait vraiment faire ça. Il y a 5 ans, moi, il m'avait proposé de prendre la tête du pôle vraiment d'écriture en disant, on va te mettre 20 auteurs et tu vas les organiser comme le SNL, comme les choses comme ça. Et comme à chaque fois qu'il y a une conversation, on met SNL, ça capote.
Parce
Du coup,
que
ça a été la grosse émission, ça a été repris par Cyril Hanouna et c'est reparti avec des pools d'auteurs particuliers et tout. Et ça, à chaque fois, c'est un vœu pieux. Les auteurs, ils redescendent d'un niveau. Mais pourtant, ils savent qu'ils sont maltraités, que c'est pas au niveau de l'écriture anglo-saxonne.
est-ce que c'est toujours dans ce genre de projet, est-ce que souvent quand ça capote, c'est parce que genre ça vient de la qualité ou vraiment c'est la qualité et le fait que ça le projet reste, c'est déconnecté? Alors est-ce que
C'est alors dans le projet en particulier quand ça concerne Canal+, ça vient de Canal+, c'est une boîte qui fonctionne selon une politique très particulière, qui est assez corporatiste et ils ont des codes, ils ont une façon de se faire travailler entre eux. Et il y a plein de choses qu'on maîtrise pas, ça a aucun rapport avec l'artistique. Tu as un directeur de chaîne qui est un directeur de Comedy Plus qui veut faire travailler par exemple en priorité Studio Bagel, qui veut mettre certaines équipes et toi tu arrives, tu es juste auteur, tu dis je veux juste faire bien mon métier, mais tu es rien, tu es juste un rouage et des fois tu arrives à t'insérer dans la machine et Dieu bénisse parce que ça va te remplir le livret A. Et sinon, tu es rien, quoi, tu maîtrises rien. Moi, j'y suis arrivé, j'ai bossé pour Bagel sur un malentendu total. J'ai écrit un scénario du jeudi au vendredi. Ils me l'ont fait réécrire 4 fois, ils ne le lisaient jamais le scénario. C'est-à-dire qu'à un moment, j'en suis à tellement de réécriture dans le scénario que je dis, je vais mettre une scène où il y a la fille, elle monte sur son père, elle commence à baiser avec son propre père. Et je me suis dit, si ça passe, ça veut dire qu'ils ne le lisent pas. Et cinquième version, la fille, elle baisse son père. Sixième version, la fille, elle baisse son père. Et à un moment, ils me disent, tiens, on te paye. Et il y a quelqu'un qui va réécrire ton truc. Et j'ai fait, ok, payez-moi.
Et c'est le seul
David
sketch qu'ils ont gardé.
Je l'ai même, tu sais, ça fait, c'est tellement cruel quand tu t'investis dans un truc et que quelqu'un te le réécrit et qu'au final, tu sais pas. Et moi, j'avais le producteur, celui qui m'est branché sur ça à l'époque, il m'avait dit, apprends à te taire, tais-toi. Ne dis rien, tais-toi. Parce qu'en fait, j'avais compris, et c'est malheureux, c'est que des fois, il y a des intérêts qui sont supérieurs à toi et que
Ah oui, clairement.
comédie, le mec de comédie il va croquer, le mec de bagel va croquer, toi tu vas croquer. Moi je suis pas dans la politique, j'ai vraiment besoin de croquer, donc bah, ok, faites ce que vous voulez avec mes textes hein, et amusez-vous. Et c'est pour ça que on maîtrise pas tout. Et en tant qu'auteur, tu vois, Froussin, typiquement, moi je trouve que tu avais ce que tu faisais en live, c'était tu te suffisais à toi-même en fait. Et c'est ça qui va t'accompagner des prochaines années, c'est que tu as déjà un personnage, ça suffit à soi-même et fais-le de ton côté le truc. La télé, c'est bien jusqu'à un certain point. Maintenant, fais-le de ton côté. Tu existais déjà avant eux et tu vas exister après eux.
Ouais, bah
Donc,
carrément, ouais. Tu te
ils
plains
peuvent
des
se projeter
producteurs,
sur
mais
toi. Hein.
t'as tellement le look d'un producteur. En plus, t'es en conf call. Fais-le par toi-même, écoute.
J'ai l'impression de me faire engager. Oh mon Dieu!
C'est toi que je veux, Foussin.
Parce qu'après, je vous ai dit, après, j'ai un repas sponsorisé juste après.
Ah oui, c'est ça, on en a parlé avant.
Et ma femme, l'influenceuse, du coup, on doit être bien habillé pour ce repas pour les photos. C'est pour ça que j'ai mis une chemise alors que c'est dimanche. Voilà, je dois être bien habillé pour Flunch. C'est un repas sponsorisé par Flunch, par le traiteur.
Peut-être la première fois que quelqu'un s'habille bien pour Flunch.
On va remonter la barre pour.
Ils vont trop te prendre pour un client mystère à Flunch. Ils vont se dire, c'est beau, c'est qui ce gars en costard là? C'est trop bizarre.
Mais tu sais que tu es pas raccord avec Flunch, et quand je suis allé chercher la bouffe là-bas, c'est que j'étais habillé comme le manager.
Ouais, c'est ça.
Et je me suis dit, oh putain, j'ai fait. Mais bon, écoute.
Toi, Fred, t'as déjà eu des
Manger chez
expériences,
Flash, ouais.
ouais.
C'était
D'expériences chez
plutôt bon.
Flunch où t'as écrit des trucs.
Bah oui, on avait écrit pour bah, une petite com qui s'est jamais faite, mais pour lequel bah, on a été payé. Bah, c'était assez. Bah, cette expérience-là, ouais, on essaye de donner tout ce qu'on peut créativement parce qu'on se dit, genre, c'est un truc qui va marcher parce qu'on est dans les locaux, on est avec des gens qui gèrent l'argent, qui nous disent que tout va bien et tout. Et puis le projet se fait jamais parce que. Bah, c'est pas toi qui décides.
Ouais.
Et c'est
Et
vrai
que c'est des
que.
fils de pute, ça, surtout.
Bah, après, je pense que genre, ce qui est pas mal avec une chaîne de commandes, c'est que personne n'a besoin d'être un fils de pute pour traiter les gens mal ou le projet d'une mauvaise manière. C'est genre chacun fait son petit bout de job et à la fin, genre le petit bout de. Enfin, petit bout de job par petit bout de job, ça donne un job de quelqu'un d'horrible. Mais du coup, personne se sent si
Celle-là.
coupable que ça. Et le truc, c'est d'être auteur, d'être la personne qui n'a pas l'argent, bah, c'est que tu es à la fin de cette chaîne, donc tu es celui qui se prend tout le reste, quoi. Après, voilà, genre, j'avoue que, genre, il y a toujours un petit côté de moi qui est un peu de droite et qui me dit, genre, peut-être qu'il faudrait d'abord être celui qui a l'argent avant d'être auteur, et en même temps, je ne l'ai pas. Donc, donc je
Et tu
commence
donnes
par
pas les
être
moyens
auteur.
forcément de. Ouais, c'est clair. Bah bon,
Non,
c'est un
mais
peu
le
pour
truc,
ça
c'est qu'auteur,
que.
on peut pas t'enlever le fait d'être auteur. Et ça, c'est vraiment la frustration, se dire c'est pas difficile une chose, mais auteur, on peut pas t'empêcher de l'être. Et c'est pour ça que les gens, je leur dis, mais c'est pas grave si vous avez un travail alimentaire, un truc comme ça, faites ça, mettez-vous bien et écrivez le soir. Et si vous aimez vraiment ça, ça prendra peut-être 10 ans, mais au bout, il va se passer un truc. Mais écrivez, faites les choses malgré tout, quoi.
Ah bah oui. En même temps, même Dave Chappelle, l'histoire où il quitte son show pour je sais pas combien de millions là, j'ai l'impression que c'est un peu le même problème de désaccord sur l'écriture, sur le ton avec un network et
Elle est
t'envoies tout balader.
subtile. Vous l'avez vu le spectacle du coup où il explique pourquoi il a fait ça?
Non.
Bah, moi je l'ai vu, mais il l'explique pas vraiment en fait.
Assez subtil parce qu'en fait il fait référence, il raconte une grande histoire
Oui, voilà.
sur la biographie d'un proxénète qui s'appelle Iceberg Slim. Et il explique une façon qu'ont les proxénètes de maintenir leur pute en fait. C'est au bout d'un moment quand tu vois qu'il y en a une qui est à bout, qui va craquer, qui va lâcher ton petit cheptel. en tant que proxénète, tu la prends à coup de cintre, tu la massacres, et après, tu vas lui apporter un peu de réconfort, et elle sera tellement reconnaissante de ce réconfort qu'elle va oublier que tu l'as maltraitée. Et je crois que c'est vraiment la métaphore de ce qui s'est passé en télévision pour lui, c'est-à-dire on l'a pressé comme un citron, et à un moment, il a fait son proposition, il a dit, bah, écoute, c'est pas grave, on t'a fait craquer, on t'a mis la pression toute l'année, et là, on va te refaire un contrat à 20 millions. Et à ce moment-là, il se dit, ben, si je l'accepte, je serai de la position de ce pute qui accepte et qui oublie tout ce qu'on m'a fait avant. Donc, il
Ouais.
s'est barré en Afrique du Sud et il est revenu ben,
En
comme le
totale
plus fort au
indépendance,
monde,
en fait,
quoi.
c'est ça?
En indépendance, c'est juste devenu le mec le plus fort au monde. Il est dans le top 3 et il écrase tout le monde par sa... Je sais pas ce qui s'est passé en Afrique du Sud, je sais pas s'il a trouvé la sérénité, mais quand il est revenu. Là, aujourd'hui, la vie de David Chappelle, c'est prendre un jet, remplir un stade, sortir du stade, se faire des injections en intraveineuse pour tenir le coup, reprendre un jet, aller à un autre endroit, et ce qu'on lui infligeait de pression à la télévision, bah, il se l'inflige toujours à lui-même, mais il se gère tout seul, quoi.
Ouais, c'est ça. Il choisit en fait. Moi j'aime bien son truc de. Il vit au fin fond de. Je crois que c'est l'Ohio.
Ouais, il a
Dans
un
un petit
ranch
bled.
énorme,
C'est
60
ça?
hectares, ouais.
Et enfin, après, c'est l'image que je m'en fais. Ça se trouve, c'est totalement pas du tout la réalité. Mais en gros, tout le monde le connaît dans le bled où il est. Tout le monde s'en fout en fait. Il a pas ce côté fame quand il rentre chez lui, quoi. Il n'y a pas des gens qui attendent devant sa maison ou des gens qui crient quand ils passent dans la rue et tout, il a limite, il peut aller faire ses courses, quoi. C'est l'image que je m'en
Bah,
fais. Après, ça se
il a
trouve, c'est totalement faux. Se trouve, il
il
a
a
son
vraiment un
propre
ranch de
supermarché.
la
En fait, c'est
source de
sa ville et c'est que des
satisfaction.
acteurs qui jouent.
C'est possible, mais il a un ranch de plusieurs dizaines d'hectares, donc ça se c'est comme s'il avait une ville à lui et il a vraiment pas besoin d'aller interagir avec parce que où il habite, c'est littéralement des ploucs, hein. Il s'est isolé totalement, hein.
Ouais. Comme Kanye West, d'ailleurs.
Ouais, j'ai vu ce matin qu'il a acheté une montagne.
Ah ouais, il a
Il
acheté une
s'est pris
montagne.
en photo, il s'est pris en photo avec son hoodie en mode en haut de la montagne, genre littéralement au sommet, tu vois. Et ouais, genre, bah forcément sur Twitter, t'as forcément tout le monde qui achète une montagne.
Attends, je savais même pas qu'on pouvait acheter une montagne, quoi.
Bah c'est des terres quelque part, genre.
Oui, ça, sauf que
Ah ouais, c'est
c'est
vrai.
une terre, mais en
Faut vraiment
triangle.
être. C'est juste une terre inexploitable, quoi. Si, tu peux faire une station de ski, s'il y a de la neige.
Voilà, a priori, je ne sais pas si elle est assez haute,
Oui.
la montagne de Kanye West, pour faire... Après, je suis sûr qu'il a les moyens d'acheter
Dis
de la
pas ça à
neige.
Kanye West, hein, parce que tu vas l'énerver.
Ah ouais, elle est passée haute. Je vais acheter une autre montagne, je vais la mettre dessus, il y a quoi?
Il va déménager ton appart, il va le mettre sur sa montagne.
Tu vas acheter assez de baskets pour que ça puisse remplacer de la neige sur sa montagne. Et tu skies sur des baskets.
Non,
Heureusement que t'as pas heureusement que t'as pas autant d'argent que Kanye West.
Au final, pour faire le parallèle à ce qu'on disait, le métier d'auteur, c'est hyper politique, hyper chiant, mais ça a quand même cet avantage de pas avoir. Moi, c'est un truc qui me fait peur, la célébrité, etc. Quand tu bosses dans le stand-up, tu es obligé d'un moment, si tu veux
Montrer ta
en
tête
vivre,
et...
voilà, tu es obligé de montrer ta tête et de même te mettre en avant volontairement. Enfin, même Dave Chappelle, qui est le gars le plus rebelle, entre guillemets, dans ce métier-là, il est quand même en train de faire de la vente de l'image de Dave Chappelle, quoi. Il peut pas
Ouais, bah oui.
s'en passer.
Mais pour ça, si tu veux être comédien stand-up, mais en vérité, dans les métiers du stand-up et des métiers de la comédie, comédien, c'est peut-être un dixième ou un vingtième des gens qui gagnent de l'argent avec le stand-up. Hein.
Ah oui, c'est clair.
Donc c'est pour ça, avant de se dire ah, je vais être fort sur scène, si tu es déjà un bon auteur, tu vas. Moi, le stand-up, ça m'a pas fait gagner d'argent dans ma vie. Hein. Ce qui m'a fait gagner d'argent, c'est écrire des émissions, écrire pour d'autres personnes, écrire des choses. Et je crois que si tu commences le stand-up, travaille ta plume, c'est l'argent, il est là. Hein,
Ah oui, c'est clair. Mais
et clairement, on te connaîtra pas, quoi.
et t'as l'avantage de pas avoir ce truc où on voit ta tête et tes personne te fait chier dans la rue.
Mais il y en a pour qui sa motivation, c'est qu'on voit leur tête aussi. Hein.
Ah oui,
Faut
ben je
pas
parlais
oublier
avec
que
un
c'est...
comédien l'autre jour en sortant d'une scène. Et justement, je disais, moi, j'ai pas envie. Et il me disait, ah non, moi, c'est ce que je recherche, en fait. Si je veux
Ouais.
qu'on. J'aimerais qu'on me reconnaisse dans
Malheureusement.
la rue. J'aimerais.
C'est la motivation, ce qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire que tu as une récompense immédiate, c'est qu'on te reconnaît dans la rue et que ça te flatte.
Ouais, c'est
Mais
ça.
ces gens-là, ce n'est pas ceux qui durent très longtemps en général. Parce que s'ils n'ont pas cette récompense-là, ils n'ont pas de quoi se raccrocher. Alors que ceux qui aiment bien le travail bien fait et se dire ça, bah, ils ont une récompense de que leur blague fonctionne sur scène.
Ouais, c'est ça. Après, c'est peut-être un truc que tu peux avoir au début, quand tu commences. C'est que moi, plus au début, j'avais peut-être un peu plus ce truc-là. Pas au point de vouloir absolument qu'on voit ma tête, mais j'avais ce truc où j'avais envie quand même d'être le centre de l'attention. Genre, je me souviens, j'ai fait une scène. Je suis allé à une soirée après chez des amis. On me demande, tu fais quoi dans la vie? Je fais du stand-up. Alors que j'avais fait une scène, tu vois. Mais c'était ce truc d'image de me dire, je fais du
Ouais,
stand-up, tu vois.
au début, il y a toujours
Et à
l'excitation
partir.
de genre, c'est quand même un domaine où on a vu des gens partir de ce domaine et devenir des grandes stars. Du coup, il y a toujours ce truc de genre, bah moi, même si je le fais un petit peu à ma petite échelle, peut-être que finalement je suis Danny Boone, tu vois, genre.
C'est ça. Puis en plus, tu es confronté, tu peux jouer très rapidement sur une scène avec Shirley Soignon ou des gens qui
Eh
ont
bah oui.
vraiment une grosse carrière derrière eux. Et du coup, ça te donne l'impression que tu es peut-être au même niveau, tu vois. Des fois, c'est un peu ce biais que tu peux avoir quand tu commences.
Ah bah.
Enfin, tu le vois
À
sur
partir de
beaucoup
quand
de
tu es
jeunes, quoi.
stand-upper, c'est quand qu'on dit que tu es stand-upper, c'est ça qui est compliqué. C'est quand c'est qu'on te considère comme stand-upper, c'est quand tu gagnes ta vie avec le stand-up, c'est quand tu commences sur les gros plateaux. Moi, le mec qui me dit, qui est monté une fois sur scène, qui me dit je suis stand-upper, il n'y a pas de souci, hein, tu es
Ah oui,
stand-upper,
c'est
je suis
clair, il n'y a pas de
stand-upper.
souci.
Oui, bah.
Après, dans les faits, voilà, je sais pas, c'est ça. Est-ce que tu analyses par flux monétaire? Moi, je trouve ça pas mal aussi, se dire. Que soit le flux monétaire qui décrive ton
Ouais, moi c'est
activité,
plus
mais.
ça. Ouais. C'est que le jour où je gagne genre un vrai pourcentage de ce que je gagne à travers des scènes, ou en tout cas je suis payé pour faire du stand-up déjà, et que c'est pas des chapeaux ou un petit cachet pour jouer 10 minutes sur des scènes,
Ouais,
genre
ça,
je
vous
joue
avez de
mon
la chance, ça change
spectacle.
chez vous, ça. C'est en train de. Il y a une vraie. Nous, on le sent en province, on sent qu'il y a une vraie volonté de professionnaliser à Paris. De vous apporter des cachets, de vous payer comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde parce que ça va donner une impulsion. Ce qui se passe à Paris, on va pouvoir l'expliquer, nous, en province, et dire, écoutez, il y a plusieurs niveaux de stand-up. On en est à un moment où il y a beaucoup de comédiens. On ne peut plus dire que y a une catégorie qui est très professionnelle et qui touche de l'argent, bon, qui n'a pas besoin de nous, puis une catégorie qui est au-dessous. Qui a besoin maintenant d'arrêter d'être payé en cachet, qui a besoin de payer des impôts, qui a besoin de faire des choses. Puis il y a les amateurs, et là vous êtes en train de bien segmenter le truc. Et nous, ça, on va vraiment bénéficier dans les 5 prochaines années de ça. Et vous allez en bénéficier directement maintenant, quoi.
Ouais,
Ouais, parce que ça serait intéressant d'avoir des comedy clubs dans plusieurs villes de France et de
ah ouais,
pouvoir
ah bah oui.
organiser des tournées à travers, comme il s'est passé aux États-Unis dans les années 80,
Exact.
et avec une explosion du nombre d'humoristes et du nombre de lieux.
Ouais.
Bon, et après la crise où plus personne n'allait dans les lieux, donc les lieux fermaient, donc les comédiens allaient tous à New York et c'était
Arrête de parler,
déprimant.
arrête de parler.
Mais
Mais c'est ce qui fait la différence entre niveau américain et non niveau, c'est le circuit.
ouais, c'est
C'est que
ça.
là-bas, il y a un vrai circuit secondaire que vous ne voyez pas à la télévision, mais qui est un circuit où un comédien peut très bien prendre sa voiture et faire le tour des comedy clubs pendant 1 mois, 2 mois, et c'est là que ça s'améliore. Et en Irlande, en Écosse, en Angleterre, c'est la même chose.
Grave.
Ici, on n'a pas ce circuit. Et c'est ça que le jour où on a le circuit, le niveau d'humour explose. Tant
Puis
qu'on n'a pas ça.
T'as même des sous-circuits, t'as les circuits des
Bien sûr.
églises, circuits des
Les
facs,
facs, même.
t'as...
Ah bah les facs, c'est merveilleux parce que tu es payé. Hein. Faire le
Ah ouais.
circuit des facs, c'est trop bien.
Tu peux pas faire de blagues tout court,
Hein.
mais tu peux pas faire de blagues sur plein de sujets, mais bah, là je pense aux
Désolé.
églises aussi.
Toi, t'avais essayé de. On avait fait ça. Enfin, t'avais. Je sais pas si c'est toi qui. Si, c'est
Ah oui,
toi qui avais
si, ouais,
organisé
c'est moi qui avais organisé. Ah,
dans les
c'était
facs
longtemps.
et notamment, c'était d'aller. Je sais plus comment on
C'était
appelle
les
ça.
cités universitaires, c'était pas les
C'est ça.
facs. Du coup, on était plus indépendants et c'était organisé par nous. Donc, on avait liberté totale de ton et tout. On était quand même affilié au CROUS, qui est l'organisme de l'État qui gère les bourses et les lieux justement de résidence des étudiants. Et on avait fait ça en bas parce qu'ils avaient des grandes salles. Moi, j'étais en résidence étudiante et il y avait une grande salle qui était inutilisée. Et au final, c'était sympa. Après, bizarrement, en fait, on avait ce biais de se dire, ouais, c'est des étudiants, on fait une soirée gratuite, c'est sûr, ils vont tous venir, ils vont kiffer. Et
Ça.
on distribuait des flyers à l'entrée et ils nous disaient, non, je préfère étudier. ça va.
Mais tu vois, les facs, on néglige ce circuit-là, mais les facs, les lieux religieux, les églises, des choses comme ça, les segments très particuliers comme ça va être les handicapés. Ouais. Il y a vraiment plein de façons de faire l'humour, de s'adresser à d'autres personnes, de segmenter qu'on n'a pas encore exploité. Mais il y a un boulevard, il y a un boulevard à faire même. Même dans le côté charitable, en tant que comédien, on ne fait pas beaucoup d'actions de caritatives.
Grave.
On pourrait remplir des salles entières pour les actions caritatives, ça serait au bénéfice de ces actions-là et à ton bénéfice aussi, puisque ça te crée un lieu où tu peux jouer pour la bonne cause, dans des bonnes conditions.
Bah, Roman l'a fait là, récemment, non ? Roman Frayssinet, il a fait ça à l'Olympia, non ?
Bah ouais, c'est génial. Ouais, il l'a fait en plein Olympia.
Les
ouais,
gars,
ouais,
je suis à Montréal et je suis plus au courant que vous. Ouais, il a fait ça à. Je sais plus c'était quel assaut. Je crois que c'était Cancer ou un truc comme ça. Je crois que c'est son père qui a une liaison plus ou moins avec cet assaut. Et du coup, ils ont décidé de le faire.
Ok, ouais.
Et genre, ils ont rempli l'Olympia. Je sais pas s'il aurait rempli aussi vite sans l'assaut. Non, si c'est le côté caritatif, mais en tout cas, c'est vraiment cool.
C'est tout bénef. Hein. Nous, là, on envisage, tu sais, c'est l'hiver et. Et alors, par exemple, on a le Comedy Club de Aix-en-Provence où il y a 10 artistes qui viennent. En général, l'entrée, elle est à 5 euros. Et même s'il y a 60 personnes, ça fait 3. Ça fait pas un chapeau de fou pour les artistes. C'est pas... Ils vont pas en vivre. Par contre, ça paye les pizzas, ça paye les choses comme ça. Et là, on se dit, quelle action pourrait donner de plus intéressante pour l'hiver ? Et on se dit, peut-être que les spectateurs, au lieu de payer, ils vont amener un vêtement chaud. Et le lendemain, les comédiens vont les distribuer à des personnes dans le besoin. Et ça fait sens. Et c'est une histoire, bizarrement, qui se vend, sans être cynique, qui se vend plutôt bien auprès des médias. C'est une histoire qu'un journal, il peut se dire, OK, c'est une bonne action, donc on va suivre le Comedy Club, on va suivre leur action. Et c'est assez vertueux pour tout le monde. Et les comédiens, ils ont même... qui partent avec 10 euros, 20 euros, ça ne sert à rien, honnêtement. Faites ça. Eux, ça leur remplit quelque chose qui est intéressant humainement et... C'est une autre approche, mais il y a plein d'approches qu'on devrait essayer qui vont se généraliser. Quoi.
Puis mine de rien, j'ai l'impression, en plus en dehors de Paris, il y a ce côté un peu business, show business du stand-up, même alors qu'on fait des scènes où on n'est pas payé et tout. Mais quand tu vas organiser, enfin moi j'ai mon oncle qui est dans le milieu du théâtre et tout, qui est plutôt théâtre subventionné, les trucs un peu roots et tout. Et quand tu lui parles d'humour, de stand-up et tout, il voit vraiment ça comme une machine à fric. Et c'est quand tu vas au Festival d'Avignon, tous les spectacles d'humour, stand-up, c'est des gros trucs dans les grosses salles. Ils bouffent un peu l'espace des vrais gars qui font du théâtre, un peu indépendant, un peu inspiré, etc. Et du coup, des trucs caritatifs comme ça, ça pourrait vraiment changer cette image. Parce que, et c'est un biais que beaucoup de gens ont, en plus, qui se lancent aussi dans le stand-up. Ils se disent, vas-y... j'arrive pas à être acteur, je vais devenir stand-upper, c'est plus facile, je vais vite péter et tout. Et au final, c'est dommage, parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est même plus dur de faire du stand-up et d'être connu comme ça que d'être juste acteur. Et puis tu fais des castings, et puis enfin, l'investissement en termes personnel. Hein. De quoi ?
Nous, on n'est pas acteur. Le problème, c'est s'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas acteur. C'est-à-dire, demain, tu donnes un scénario à un stand-upper. Qu'est-ce qu'il en fait ? Il n'a pas la capacité à jouer. Alors que l'inverse, c'est vrai. Un comédien pourrait plus facilement jouer quelque chose. Et moi, je dis toujours aux gens qui viennent me voir dans la démarche stand-up, à la fin d'année, vous ne serez pas un bon acteur. Je n'ai pas cette capacité-là. Et si vous avez un défaut de prononciation, vous l'aurez toujours à la fin de l'année. On ne travaillerait pas ça. Par contre, vous serez la meilleure version de vous-même. Vous allez vous accomplir, vous serez fier de ce que vous faites. Et on va se raccrocher à ça, surtout. Et c'est pas, il n'y a pas d'opposition entre acteur et stand-upper, puis c'est pas le même métier, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que t'as pas mal de gars qui font du théâtre ou du cinéma qui n'ont pas forcément beaucoup de contacts ou qui n'arrivent pas forcément à percer au bout d'un moment. Ils disent, vas-y, le stand-up, c'est accessible, il suffit d'y aller et on te prend sur une scène ouverte. Et du coup, ils y vont.
Tu gagneras pas d'argent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent.
C'est un peu genre, j'ai l'impression, c'est ce qui est vendeur dans le stand-up, c'est que c'est un peu la même. Ça vend le même rêve que de monter sa start-up en phase de être embauché dans une grosse entreprise. Et le stand-up, c'est un peu la même réponse à ça de. En fait, vous pouvez tout faire vous-même et du coup, vous êtes la clé de votre propre succès. que tu n'as pas forcément quand tu te dis bah, je vais être acteur, donc je suis au service des autres, donc je trouve d'autres qui m'utilisent de manière intéressante et comme moi je le veux, au rythme moi j'aimerais bien. Et bah, l'avantage du stand-up, c'est que ouais, c'est un vivier. Et il y a un peu ce rêve à la fin de genre, mais en fait, genre, si t'es pas connu, c'est aussi de ta faute parce que genre, t'as pas bossé assez. Et, ouais. Je pense que du coup, c'est aussi ça.
Tu es ton propre produit. Hein.
Mais c'est ça, mais je pense que c'est ça qui fait que.
C'est vrai que c'est flatteur de cultiver ça, quoi, mais bon.
Et après, il y a ce côté-là de genre, bah oui, quand t'as un mec qui vient du stand-up et qui finit comme star d'un film à côté. Bah, c'est comme quand une grosse boîte a racheté une petite start-up. C'est genre, bon, bah voilà, lui est assez bien sur le marché pour qu'il nous soit utile. Donc maintenant, il fait partie d'un système plus gros.
Il faut juste qu'on attende qu'on se fasse racheter par Google, quoi.
Mais en plus, même, tu parles de la logique
Google
start-up.
Google étant Danny Boone, pour la métaphore.
Tu parles de la logique start-up, il y a plein de parallèles. Monter, en plus, j'avais vu un documentaire sur le design qui est sur Netflix, je ne sais plus comment ça s'appelle, Artifact.
Abstract.
Abstract, voilà. Il y a le gars d'Instagram, un des designers chefs d'Instagram, qui parlait justement de, je sais plus, Jerry Seinfeld ou je sais plus. Non, il parlait de Marc Maron, je crois, et de toutes les interviews de stand-uppers qui parlaient de leur process de création. Il disait c'est exactement la même chose quand tu es dans une start-up et que tu es un produit. C'est exactement la même démarche. Si tu fais une première version toute petite, hein, ils appellent ça proof of concept, tu vois. Limite, c'est vraiment l'essence de ton produit. Ensuite, tu le testes sur des utilisateurs. Puis en fonction des retours, tu l'updates. Et petit à petit, comme ça, tu crées un gros produit. Et la logique stand-up, c'est exactement la même, tu vois.
Ouais, c'est vrai, ouais.
D'ailleurs, je trouve que genre, on a des amis de stand-up qui viennent d'école de commerce. Je les trouve toujours genre, assez excellents dans ce processus de connaître exactement de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils vont le faire, etc. Et de le faire bien. Et je pense que genre bah, parce que c'est très lié en fait, genre le fait d'être bon dans cette économie individualiste, bah en fait c'est toutes les règles pour faire du bon stand-up derrière quoi.
C'est clair.
Ou au moins s'améliorer. Ouais,
c'est exactement les mêmes questions que tu te poses en fait dans le commerce quand on t'apprend l'école commerce, tu vas avoir le produit, le prix, le placement, tu vois toute la publicité et en fait quand tu deviens ton propre produit. Tu maîtrises qu'une partie de ce truc-là et tu es obligé de tout le mix marketing, de te l'appliquer à toi-même et de mieux réfléchir à ce que tu vends, à ce que tu dégages. Et donc, j'avoue qu'il y a un avantage si tu as déjà réfléchi pour d'autres choses, quoi. Mais ce qui est dur, c'est d'être à la fois le miroir et celui qui se regarde en stand-up. Cette capacité de s'analyser, de se dire comment je suis perçu, comment je peux me vendre. Bon, moi, aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois, pour revenir à un produit, je prends le produit Détective Roussin. Je vois un produit et je me dis, ok, je sais comment le vendre, je sais ce que j'en ferai moi. Et si, par contre, moi, dans ma peau, quand je suis Briac là, je me dis, putain, tu es un mec de 38 ans, qu'est-ce que tu en fais de ce mec-là, quoi. Et c'est pour ça que le produit faire intervient à ce moment-là.
Oui, mais de toute façon, c'est toujours plus compliqué d'avoir du recul sur toi que sur quelqu'un d'autre. Mais c'est comme, moi, c'est pour ça que j'aime bien écrire à plusieurs, genre de la comédie. Parce que tu as toujours ce truc-là de genre, vraiment, tu parles d'une blague à un pote et tu vas dire « Ah oui !» et après tu dis ça. Et t'as genre « Ah non !» Genre, putain, c'est beaucoup plus drôle. Et genre, il y a quelqu'un qui vraiment va avoir du recul pour voir immédiatement ce qui est drôle dans ton idée, en fait.
Après, c'est pas toujours évident, je trouve, d'écrire à plusieurs... je sais pas comment... La meilleure formule... J'ai pas encore trouvé la meilleure formule pour le faire, quoi. Que ce soit pour des trucs pour moi ou même pour des trucs pour les autres, ou des fois on essayait de faire une logique d'échange, ou je sais pas, on faisait des réunions entre humoristes pour discuter de nos textes et tout. Je sais pas quelle est la clé de ce truc-là pour que ça marche. Est-ce que c'est juste une histoire d'avoir des
attentes crochues ? Payer beaucoup. Juste vraiment, tous les projets d'humoristes, c'est genre payer-les beaucoup et ça va marcher.
Ouais, mais en même temps, si tu veux juste faire un truc où j'en ai tous les quatre et on s'échange de bons procédés, on se donne des vannes les uns les autres et... Ouais. J'ai jamais trouvé un truc comme ça où la logique me paraît trop séduisante, mais
moi, c'est
dans les faits, les vannes que tu vas trouver sont pas forcément ouf, ou tu vas toujours avoir des déséquilibres, ou tu vois.
Ouais, il faut l'accepter. Accepte les déséquilibres. Accepte qu'il y ait un mec plus fort que d'autres. Et moi, il faut aller sur les. Au lieu de se dire putain lui il a ses points faibles là, tu vas chercher les qualités du mec. Tu vas dire lui il est toujours plus fort en mise en scène. Donc, tu vas essayer de noter plutôt ce qu'il te dit dans la mise en scène. Puis il y en a qui sont forts dans la structure, dans l'aspect structurel, qui s'intéressent plus à la narration. Et tu te sers de ces qualités-là et tu combines. Et surtout, ce qu'il faut pas dans ces trucs-là, c'est tomber amoureux de ces vannes. Des vannes qu'on donne ou des trucs qu'on a déjà écrits. Si tu es amoureux de ça, c'est comme au poker. Si tu as une bonne main, que tu la gardes jusqu'au bout, tu vas t'écrouler
Ouais.
sur scène avec la blague.
Ouais,
Là, il
c'est
faut
clair.
accepter que la vie de tout le monde compte et que ça va peut-être pas t'impacter sur le moment, mais ils vont te faire réfléchir. Il faut le prendre comme ça. Et de la même façon, quand tu dis un truc à un mec, s'il veut pas le corriger et que sur scène il bide parce qu'il n'a pas corrigé, il est pas con, il va se rendre compte après, il reviendra à ce que tu lui as dit. Mais tu donnes, tu es pas, voilà, tu donnes sans réfléchir, tu acceptes. Et surtout, il faut pas arriver à la frustration de putain, je lui ai donné une trop bonne vanne et tout, j'aurais pas dû, il va mal la faire. Lui donne pas. Quand tu donnes, donne sans réfléchir. Et si tu veux lui donner, lui donne pas. Garde-le d'un coin de ta tête. Mais c'est vraiment relire les autres, et se faire relire, c'est vraiment. C'est là où je pense que tu progresses en stand-up, c'est quand tu trouves ce groupe avec qui tu as en confiance et qui va t'amener plus loin.
Ah oui, c'est clair.
Et moi, quand je corrige les gens, c'est que vraiment, je veux les amener plus loin. Du coup, je le fais pas avec beaucoup de personnes. J'ai deux mecs que je produis en particulier, avec qui j'ai des conversations longues. C'est très conversationnel, hein. C'est très smooth, c'est très cool. On n'est pas sur des réglages précis, hein, la plupart du temps. 89% du temps, c'est juste parler et les encourager à dire oui, tu vas dans le bon sens, ou
Ouais.
là, ça ressemble pas à ce que tu veux faire.
C'est
Mais
plus en
dès que
termes
tu trouves ce
de
mec-là,
direction globale, sur des
ouais.
thématiques, sur des. Une image de que tu veux renvoyer, ou même ça peut aller jusqu'au marketing, de comment tu veux vendre
Et trouve
tes
ce mec-là, et
spectacles, tes
quand tu as
trucs.
trouvé ce mec-là qui t'émule, tu verras que ça va t'enlever beaucoup de choses. Moi,
Ouais.
je me considère comme le N plus 1 de quelques personnes. Et je suis là pour leur dire, les gars, allez dans ce sens où ça te ressemble pas, tu pourrais faire tellement mieux. Et le fait qu'ils aient ce mec au-dessus, ça les stimule vraiment. Je le sais que ça les stimule. J'ai pas besoin de régler le détail de leur van. Ça, c'est leur travail sur scène, leur travail
Ouais.
de stand-up.
Mais
Et
ça peut
n'allez
être
pas
intéressant
chercher, voilà,
aussi,
ce
cet aspect-là.
réglage-là.
De, tu sais, de petites. Je sais pas. Tu te mets derrière, tu regardes un gars, puis. Après, j'aime bien quand les gens te demandent avant, puis qu'ils viennent pas te proposer des vannes alors que t'as rien demandé.
Ah, je sais pas, moi je le fais. Moi je le fais. Enfin, je demande. Je dis, ah, j'ai trouvé une vanne pour toi, si tu veux. Tu vois, je
Ouais.
dis, genre, ah, je te regardais. Moi
Mais
j'ai pensé à un truc. Et
c'est, je
voilà
trouve que c'est
quoi.
la situation 100% perdant parce que soit t'aimes
Ah
la vanne
non.
et t'es. Non, si t'aimes bien la vanne, c'est bien. Mais si t'aimes pas la vanne, t'es là.
Ah bah au pire, si t'aimes pas la vanne, tu dis ah merci, ok, c'est gentil, et t'y réfléchis, si vraiment t'as pas envie de la faire, tu vas jamais la
Non,
faire,
c'est
tu vois.
clair, c'est clair. Mais
Et la
moi,
personne
j'ai
va
vécu plein de
attendre.
malaises comme ça où soit je donne une vanne et je suis mal à l'aise parce que la personne, tu vois qu'elle a pas rigolé, ou soit tu la donnes et la personne, je sais pas, enfin, je sais pas, ça crée toujours des.
Moi j'ai fait
Moi, j'ai jamais bien
beaucoup.
vécu ce truc-là.
J'ai fait beaucoup le truc à un moment de dire ah ouais, en fait, ce qui est cool dans ta vanne, c'est ça, et du coup, genre, peut-être si t'allais dans cette direction, et c'est vrai que, genre, en fonction en fait de si la personne trouve que t'es bon ou pas, il y a aussi ça, elle
Ben
dit
ouais, c'est
genre, c'est
clair.
un super conseil, ou genre,
C'est
qui
ça.
tu es pour me
Des
parler?
fois, je me suis rendu compte par contre que quand je donnais une. Ça marche mieux avec des. Ce qui. Plus des tags que des vraiment des punchlines. Parce que des fois, la personne va venir te voir. Genre, ta blague, admettons, c'est. Je fais une blague sur les sous-vêtements féminins, tu vois. Et je dis qu'en gros, c'est pas de la bonne qualité, bref. Et en gros, ça, c'est l'essence de ma blague. Et je fais une punchline qui est peut-être pas exactement ça, mais voilà. La personne vient te voir avec une autre punchline, mais qui a rien à voir avec ton postulat de départ, tu vois. Juste parce que lui, le sujet l'a fait penser à une autre vanne. Du coup, tu peux pas l'utiliser parce que
C'est clairement ma
en
vanne
gros, tu
là.
jettes ta vanne et tu prends la sienne, quoi. Et
Oui,
c'est,
bah
moi, c'est des fois même, tu vois, je cherchais tout à l'heure l'exemple où c'est une bonne vanne, mais je peux pas l'utiliser, tu vois.
Ah, ça m'arrive.
ouais, mais
Ça
c'est, tu
m'arrive.
vois, la démarche de venir, c'est déjà les gens, tu vois, ils t'apportent, par exemple, si un de vous vient me dit, cette vanne, tu devrais faire comme ça, ou il vient pas de me donner une vanne, il vient me donner toutes ces années de stand-up plus une vanne.
Non, c'est clair, c'est clair.
C'est-à-dire, c'est. Et vraiment, c'est vrai qu'avec le temps, tu apprends à qui tu le dis. Il
Oui,
faut
voilà.
vraiment
Et
choisir à
comment
qui tu le
aussi?
dis.
Et comment, quel
Comment
truc
tu
tu
le
peux
dis, à
donner,
qui tu
quel.
le dis et pourquoi tu le dis.
C'est
C'est
ça.
super important. C'est pourquoi est-ce que c'est pour t'aider? Est-ce que c'est pour qu'on fraternise? Est-ce que c'est parce que j'aime l'exercice? Et je pense que le fait d'aimer l'exercice, d'améliorer les trucs, c'est la plus mauvaise raison de dire à quelqu'un d'améliorer une vanne.
Ah ouais?
Il faut le faire que par amitié, que parce que tu penses que ça. Il y a un truc. Sinon, moi, je l'ai fait à des gens et ça n'a rien abouti. Ils se disent qui c'est ce fou, comme tu as dit. Et la même façon, quand tu vois que quelqu'un a copié quelque chose, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, garde-le pour toi. Moi, ça m'est arrivé avec des gens connus qui ont volé des sets complets. Ça m'a rien apporté de leur dire que de l'embarras des deux côtés parce qu'eux, ils vont jouer du fait qu'ils sont connus pour dire mais non, mais il est fou lui, il est mute, il me dit que j'ai copié quelque chose. Je sais, bon, ça va laisser
Ouais, c'est
chacun
clair.
sa vie. Améliorez-vous entre vous, aidez vos amis, soyez vraiment dans votre famille, dans votre cercle d'amis, aidez-les, les autres, laissez-les venir à vous. Et si on vous, par contre, si on vous demande conseil, débriefez gentiment. Mais si on ne vous demande pas, gardez ça pour vous. Les amis, vous savez que j'ai un repas sponsorisé qui est en train de s'organiser au-dessous de moi. Je
T'es
vais
resté
devoir
plus
y
longtemps que
aller.
prévu, donc c'est déjà super cool.
Merci beaucoup pour l'accueil. Ça m'a fait super plaisir de vous découvrir en virtuel. J'espère monter à Paris et vous voir en live.
Bah ouais,
Ça
avec
serait vraiment
plaisir,
un
quand tu
honneur
veux.
de. Voilà.
Quand tu veux.
Eh ben, si, de la
Puis
même façon, si vous venez dans la région sud, voilà, on vous accueille avec grand plaisir. C'est en train de bouger. On est aux prémices de quelque chose d'intéressant. Et voilà, comme je vous dis, j'ai une maison qui est capable de vous accueillir sans problème, donc ça sera avec grand plaisir.
super. Tu
Merci.
vois, tu pensais aller te
Ouais.
produire, t'as une maison, mec.
Ok, super, je m'attendais pas à
C'est
ça,
incroyable.
moi je.
C'est Merci
trop bien.
Briac, on se reparle vite.
Et...
Ciao, ciao.
Allez, avec
Salut.
plaisir. Salut les gars. Ciao.
Ouais.
Je raccroche, hein?
Attends, je vais couper. Vous pouvez meubler pendant que je coupe la télé.
Et alors, Fred, t'as fait quoi hier?
J'ai beaucoup parlé de moi
Ok.
et avec une personne qui m'est chère et on a juste beaucoup parlé de nous.
Bien.
Voilà. Et
Putain. On dirait le début d'une chanson. Hein. C'est super, on va écouter ce que ça a donné. C'est parti.
et du coup, qu'est-ce que tu as fait hier de ton côté, Joseph?
Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même. Non, je vais regarder. Moi, je t'ai raconté tout à l'heure là. Je suis tombé sur un slasher des années 90. Donc à l'époque où déjà il n'y a plus beaucoup de slasher.
Slasher, c'est les gars
C'est
qui.
les films d'horreur où genre oui. C'est un
Jason, quoi,
tueur.
c'est ça?
Ouais, c'est genre Jason. C'est Vendredi 13, Freddy Krueger, tout ça
Sais que
quoi.
j'ai une expertise en horreur maintenant. Parce que j'ai bossé pour Frisson TV. C'est une chaîne québécoise qui fait que de l'horreur.
Ça s'appelle Frisson TV.
Ouais.
C'est tellement mignon.
Ouais. Et j'étais monteur pour eux. Donc j'ai monté deux émissions longues d'une heure. La première, c'était comment ça s'appelait? Le plus grand fan d'horreur du Québec. Et c'était en gros, ils allaient chez des gens qui étaient fans d'horreur et qui avaient plein de. Genre chez eux, c'est vraiment un musée. Genre tu te demandes comment ils peuvent vivre là-dedans, vraiment. Genre c'est vraiment abusé. Il y en avait un qui avait une salle spécifique, là ça va, mais il y avait un, c'était genre partout. De l'entrée jusqu'aux toilettes, jusque partout. Et genre, c'est pas juste des petites figurines, c'est genre un Jason taille réelle, puis il y en a cinq à côté, tu vois, en plein milieu de son salon. Et les gars, et après ils devaient répondre à un quiz et tout, et à la fin les gens votaient pour le meilleur fan et tout. Et la deuxième, c'était quoi déjà? C'était quoi la deuxième, Sarah, tu te souviens? La deuxième émission, c'était. Ah oui, ouais, ils devaient trouver leur animateur. Et du coup, c'était un espèce de défi. En gros, où ils devaient, chacun leur tour, il y avait une petite interview où ils disaient pourquoi ils aimaient l'horreur et tout. Donc il y avait cinq candidats qui voulaient devenir animateurs de la chaîne.
OK.
Et après, ils avaient une scénette de 5-10 minutes où ils devaient, tu sais, faire une présentation de film juste qui est diffusée avant le film sur un de leurs films préférés. Et ils étaient en costume et tout. C'était très drôle à monter.
Est-ce que quand ils virent quelqu'un sur Frisson TV, ils prétendent que la personne a mystérieusement disparu dans des conditions étranges?
Je sais pas. J'ai même pas. Ah si, c'est une fille qui a gagné. Son personnage, c'était. Genre la Dame Blanche un peu, tu vois, genre très pâle et qui parle comme ça. Enfin, bref, c'était drôle à monter, parce que je connais vraiment rien en horreur, tu vois, genre je regarde jamais de films d'horreur. Et en plus, entendre des Québécois avec leur accent hyper fort, parce que du coup, c'était pas des fans d'horreur de Montréal où l'accent ça va, tu vois, quand t'es français, t'arrives à peu près à comprendre, c'était des gens de l'extérieur ou en tout cas qui avaient des gros
La
accents.
province québécoise.
C'est ça, donc déjà, t'as pas le vocabulaire de l'horreur, t'as pas les expressions québécoises. Genre, à monter, c'était génial.
Ça se trouve, l'émission a aucun sens. Genre, t'es pas dans la terre, genre, c'est à peu près ce que j'ai deviné. Et vraiment, tu sens que, genre, je suis québécois, ça, mais c'est, ça, c'est clairement, ça a été monté par un français.
C'est ça. Mais bref, c'était. Allez voir Frisson TV si ça vous intéresse, l'horreur. Ouais, et donc, toi, t'as fait quoi par rapport au slash?
Voilà, j'ai regardé beaucoup trop de films hier de la même franchise qui s'appelle Leprechaun. Et qui est un film d'horreur sur un Leprechaun qui est joué par Warwick Davis.
Genre, c'est un vrai. Il est joué en.
Un vrai Leprechaun. Ouais, vraiment, c'est Warwick Davis maquillé avec genre un costume de Leprechaun.
Genre, tu reconnais vraiment son visage ou c'est vraiment une, toute une. Il est derrière un masque où il est pas reconnaissable?
C'est, tu le reconnais un peu, mais c'est sur, tu reconnais surtout sa voix en fait.
Okay.
Il n'a pas dire I want me gold. Genre,
ils l'ont pas juste peint en vert et mis un chapeau.
Non, c'est, ça va au final. Mais enfin, ça va. Non, ça va pas. C'est vraiment atroce. Ça va être... Il y a Jennifer Aniston aussi, genre dans le premier, qui joue avant Friends, qui joue une ado. Et c'est vraiment. C'est, en fait, c'est super bizarre quoi. Parce que c'est un film, c'est un film d'horreur, clairement. Mais il y a un côté un peu enfantin. Et parce que c'est un Leprechaun, et du coup c'est trop bizarre quoi, c'est des codes de films pour enfants mais où il y a vraiment énormément de sang et de violence quoi, du coup tu sais jamais ce que tu regardes, tu vois. Et du coup j'ai regardé la suite.
Comment tu peux regarder un film pourri, tu te dis vas-y je vais regarder la suite
parce que je veux voir jusqu'où ça va.
Est-ce que t'es vraiment optimiste ou c'est vraiment tu sais?
Ah non, ça va être un accident de voiture, genre, mais je veux tout voir, tu vois.
Ce serait marrant que tu sois un candidat du cinéma, genre, allez, je pense que le deuxième...
Je pense qu'il peut s'améliorer.
Allez.
Tu fais en sorte que tes enfants, c'est la seule chose qu'ils voient en termes de cinéma dans leur vie.
Il y a donc des préconnaît à Warwick Davis. Et en gros, les 2 et 3 sont... Voilà, le 2 est assez classique, le 3 est à Las Vegas, le 4 est dans l'espace, et le 5, c'est Leprechaun Into the Hood. Et ça se passe vraiment avec 3 rappeurs qui... Cambriola, hein. Vraiment un ancien pimp et qui avait l'or du Leprechaun, et du coup, genre, le Leprechaun veut les buter, parce que c'est ça à chaque fois. Et t'as un des rappeurs, c'est Ice-T, quoi. Et voilà, et j'étais vraiment, et je me suis endormi devant ça hier soir, et je disais, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Vraiment, j'ai aucune idée de pourquoi c'est ce que je disais à Fred, en fait, est-ce que pourquoi les gens continuent à faire ces films, quoi.
Est-ce que le Leprechaun rappe à un moment?
Pas pour l'instant, mais je pense que ça peut arriver. Hein.
Il faut forcément terminer, le générique de fin, c'est le Leprechaun qui rappe à propos de son or.
Il y a moyen. Il arrête pas de faire des rimes, en tout cas, il parle beaucoup en rimes. Le 2,
rappeur
c'est
original.
Exclusivement des rimes. Genre, c'est en lui à chaque fois qu'il est là.
En parlant de rimes, vous avez vu Dolemite avec. Pas Will Smith, pardon.
My Name is Dolemite sur Netflix.
Ouais.
Je sais pas
encore. Eddie Murphy. Oh putain. Il est trop bien.
C'est son spécial ou.
Non, c'est un film qui est un biopic de. Je sais pas son nom, un gars qui a commencé plus.
Dolemite, non?
Ouais, non, parce que c'est le nom de son personnage. Donc il a un vrai nom. Et en gros, il a inventé ce personnage de Dolemite sur scène. Et en gros, le film, c'est. Déjà, il découvre ce personnage sur scène. Donc il monte sur scène, puis il était un peu raté avant. Puis là, il découvre ce truc. Où, en fait, ils disent que c'est un peu l'ancêtre du rap parce qu'il faisait des vannes en rappant, enfin en rimant. C'était pas vraiment du rap. Et il y avait des musiciens qui le baquaient derrière. Et c'était un des premiers à faire ça. C'était vraiment underground et tout. Et après, il est resté dans cette dynamique indépendant underground. Et il a monté un film qui était un des premiers films Black Exploitation, hein, où avec que des acteurs noirs et une histoire totalement... c'est un peu Disaster Artist, mais sans le côté triste et on se moque de lui. C'est vraiment au contraire, il fait n'importe quoi, mais on est avec lui parce qu'il... C'est trop bien qu'il se bouge tout seul, puis qu'il finance tout lui-même. Et à la fin, ça se finit bien en plus. Genre, le film marche et tout. Mais pas parce que les gens se foutent de la gueule du gars, mais parce que, genre, juste les gens sont ouf de voir un film avec des noirs. Et que c'est tellement incroyable. Et genre, il y a du kung-fu dedans. Tu sais, c'est vraiment, il a mis tout ce que les gens aiment. Et il a fait un film avec le film, ni queue ni tête. Mais les gens kiffent quand même, tu vois. Et bref, franchement, je vous conseille à regarder, ça c'est vraiment cool. Et puis c'est tellement bien de revoir Eddie Murphy. Enfin voilà. Puis je trouvais Eddie Murphy tellement cool. Je sais pas si vous l'avez vu en interview récemment dans les talk shows et tout.
Non, je l'ai pas vu récemment, non.
C'est genre, on dirait, je sais pas, c'est l'âme tranquille, tu sais, il est pas du tout dans la blague et tout. T'as l'impression qu'il est presque triste. Puis d'un coup, il va tu sais, genre vraiment, aucune émotion. Puis d'un coup, il va lâcher une punchline, faire une petite imitation. Puis si d'un coup, tu sais, ah ouais, en fait, c'est Eddie Murphy, tu vois. Mais il est pas dans ce truc de que tu vas voir quand t'es jeune, de je vais absolument faire rire tout le monde et tout. Genre, il joue vraiment le truc de. Oh, ça m'intéresse pas vraiment de vous faire rire, mais si j'ai une idée, allez.
Ouais, c'est pas grand chose.
Ouais, c'est ça, il le fait trop. J'ai tellement hâte de le voir sur scène, de voir ce que ça peut donner.
Il fait encore du stand-up?
Non, justement, il a arrêté depuis je sais pas combien d'années, mais très très longtemps, plus longtemps que Dave Chappelle.
Ouais, bah oui.
Et il a annoncé dans le truc de Seinfeld, qui est Comedies in Cars, Getting Coffee, qu'il allait reprendre.
Ok.
Ouais. Je sais pas dans quel cas, s'il va faire vraiment les comedy clubs, faire tout le circuit, créer un spectacle, ou s'il va tout de suite arriver en.
T'imagines, il reprend et c'est nul. On sait super mauvais.
Je pense que ça, ça doit.
Vous avez remarqué dans le métro.
Ben, je pense que le truc qui pourrait faire que ce soit nul, c'est qu'il soit resté dans une logique en termes de façon de penser trop à l'ancienne.
Ouais.
Comme ces anciens spectacles qui ont mal vieilli là-dessus. Et qui se mettent pas à jour sur les trucs. Ou en tout cas, je pense que tu peux encore penser comme ça, mais il faut l'assumer et dire que c'est pas ok, tu vois. Enfin, je sais pas comment te dire. Je trouve que Dave Chappelle, il fait un peu ça. Il a un peu des pensées un peu de vieux gars qui limite cinquantaine, tu vois. Mais il l'assume et il en rigole. Et du coup, tu rigoles pas avec lui d'un truc homophobe ou méchant ou quoi. Tu te moques d'un vieux qui fait des blagues là-dessus, quoi. Enfin, je sais pas, il y a une deuxième lecture qui est...
Ça s'appelle la nouvelle façon, les gens qui s'en sortent le mieux avec « je pense toujours d'une manière dont on veut pas que je pense, mais je veux quand même le faire sur scène », c'est de jouer tout le temps un personnage de « je sais que les gens vont être énervés contre moi, et voilà ce que je pense, et je sais que c'est pas bien, mais en même temps j'en joue, et c'est vraiment genre un peu la méthode. » Je sais pas si à un moment, genre, le grand public va se lasser de ça et dire genre ouais, « non, en fait, ça, genre... Ouais. » Je pense qu'il y a déjà genre une partie du public qui est là, genre non, de toute façon, genre c'est mort, t'es con, et voilà. Mais pour l'instant, genre, j'ai l'impression que c'est un discours qui fonctionne dans l'humour d'assumer, genre bah oui, je suis con et je pense ça, mais en même temps, j'ai une super blague à ce propos. Et...
Bah après, des fois, ça va plus loin que si j'ai juste une super blague. Des fois, c'est aussi vous êtes des warriors de la justice sociale et tout, mais des fois, vous êtes borné dans votre façon de penser. Et vous pouvez avoir des clichés ou des pensées toutes faites qui vous bloquent aussi, même en étant dans cette volonté de vous ouvrir et de trucs. Des fois, tu vas penser trop fermé par rapport à et exclure des gens, tu vois. C'est tout le truc par exemple des comment ça s'appelle, les tout ce groupe de gars là qui les incels. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est.
C'est un dit quelque chose.
Genre volontairement, non, involontairement célibataire.
Ah oui, ou là, oui.
Tu vois, gars qui potentiellement créent les prochains gars qui vont faire des fusillades dans les écoles. Mais en même temps, j'avais écouté une vidéo, j'avais regardé une vidéo d'une nana qui parlait de ça. C'est une trans, et justement, elle fait beaucoup de vidéos sur la justice sociale. Et elle essayait d'aller de leur côté, en fait. Elle essayait de comprendre pourquoi ils pensent comme ça et qu'est-ce qui fait que tu peux penser comme ça aujourd'hui. Comment tu peux te retrouver à être... Parce qu'au bout d'un, moment, au début, il y a un vrai truc de mal-être et au bout d'un moment, tu te fais juste manipuler par des gens qui te poussent à faire des trucs. Mais c'est toujours intéressant, en fait, de se poser la question de l'opposant et de comprendre pourquoi il est comme ça et de pas juste être dans le truc... shut down et on parle pas du tout de ça. Et
parce que je pense que j'ai aussi le côté de genre les gens qui vont être assez bornés avec il faut faire le bien et les gens qui pensent mal ils sont mauvais, etc. Il y a aussi un côté de eux aussi ont identifié à un moment un mal-être dont ils étaient la victime et du coup genre ils ont souvent eu un certain nombre de oh, en fait ça va changer la vie de tout le monde si tout le monde pense comme ça et du coup genre au final, il y a ce même côté de régler un mal-être par des mantras. Le truc, c'est que bah ouais, entre se faire devenir un mec qui fait des attentats parce que genre t'es socialement inadapté ou et que genre le monde veut pas de toi parce que t'es socialement inadapté, c'est une différence avec genre alors en fait je me prends des coups de la part de la société et je pense qu'on devrait changer la société parce que genre clairement sinon je vais rester une victime constamment. Et je pense que y a vraiment un truc de ouais des fois il y a un clash en fait des discours parce que les gens sont juste à une échelle genre à un spectre beaucoup trop éloigné pour que à un moment il puisse y avoir genre de la complexité dans ça. Mais je pense que c'est vraiment un truc de je pense plus en fait.
Non mais oui, avec pour revenir au stand-up, je trouve que c'est là où des gars comme ça qui parlent de trucs un peu tabous, enfin totalement tabous et assument le tabou et disent ouais bah moi ce que je pense c'est pas acceptable mais je le dis quand même et j'en suis pas fier mais je le dis quand même et on en rigole ensemble. Des fois ça peut t'amener à réfléchir aussi aux camps opposés, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi il y a des gens qui sont racistes, pourquoi il y a des gens qui sont homophobe, etc. Et c'est pas juste la solution de dire ok on fait comme s'ils n'existaient pas ou on les fait taire, on les supprime de la société. Genre, ça va pas, ça va juste créer des clans et,
ouais, bien sûr.
Et chacun vit dans son monde et il y a aucune l'intérêt du stand-up je trouve c'est de rassembler des gens ou en tout cas de faire penser des gens qui sont pas du tout des mêmes bords et
tu ouais, vois, moi je suis d'accord tant que mais effectivement en fait il y a une façon de faire ces blagues là et se dire voilà, c'est effectivement j'ai tort et non cette pensée elle est pas cool et en fait tant que c'est pas des blagues qui glorifient exactement. Le fait que genre enfin tu vois c'est parce
que
c'est
sois conscient de ce que tu fais en fait faut que tu sois conscient que ce que tu dis c'est pas ok et que
c'est ça quoi mais aussi faut savoir qui tu fais rire à ce moment là parce que moi je me souviens c'était en Nathan le dernier spectacle de Bill Burr là genre il y a vraiment il y a des blagues qui me font vraiment hurler de rire après je suis pas d'accord avec je pense 100% de ce qu'il dit, tu vois. Mais ce qui me fait chier aussi, c'est quand il commence une blague et qui, tu vois, à la fin, il arrive à un moment où la chute me fait rire, mais le début de la blague, c'est « Ouais, putain, les féministes, elles pètent les couilles, t'sais. » Et ça, le début de la vanne, t'sais. Et quand il dit ça, il se fait applaudir par la salle entière, tu vois. Et je me dis « Ah, tu vois, ça me dérange un peu, tu vois, parce que non, je pense pas que les féministes pètent les couilles, tu vois. » Et ça me fait chier de voir quelqu'un qui, pourtant, lui, je sais que, évidemment, tu ne penses pas exactement ça, qu'il le dit pour provoquer, qu'il y a une suite après la blague, et que la blague, il est bien trouvée après. Mais sur le moment, de voir tout le monde applaudir, ouais. Je suis genre, ah, tiens, moi, ça m'en malaise, tu vois.
Ouais, mais après, ils ne leur donnent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est ça que je trouve bien. C'est qu'ils applaudissent, mais des fois, même, il va les insulter, parce qu'ils applaudissent. Genre, à un moment, il y a un gars qui lui dit un truc qui est horrible. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis ? Genre, il rentre pas dans son. Ouais. Je trouve, il leur donne pas du grain à moudre, je sais pas si l'expression est adaptée là, mais tu vois, il va pas forcément dans leur sens. Il va dire des trucs au départ où ils vont applaudir, mais après, il va aller derrière retourner le truc contre eux, tu vois. Et, ouais, et je trouve ça intéressant. Et ça te montre aussi que bah, ces gens-là, ils existent et qu'il faut quand même prendre en compte leur façon de penser et essayer d'améliorer les choses en partant d'eux aussi, tu vois. Genre, tu peux pas juste t'améliorer toi et améliorer les gens qui sont d'accord avec toi, puis le reste.
Ah oui, bien sûr. Et puis si les gens. Avec qui t'es pas d'accord et bah tu comprends pas comment ils pensent et t'as pas envie de leur parler ils vont pas
ouais ils vont pas avancer vers toi ils vont juste te détester en fait c'est grave qu'il y ait des gens qui applaudissent le fait qu'il y ait qui pensent que les féministes soient chiantes quoi c'est pas grave parce que je pense pas que c'est grave parce que c'est horrible de le faire je pense que c'est surtout grave qu'il y ait des gens qui soit tellement en mal-être par rapport à ça
ouais,
qu'il soit
ça, quoi.
Enfin quelqu'un qui le dit tu vois genre, ouais, c'est ça qui c'est en fait c'est les gens qui maintenant genre vivent avec l'idée que féministe c'est un mot clé et la réaction c'est il y a ceux qui trouvent que c'est bien et ils ont tort et nous on trouve que c'est pas bien donc c'est la réaction qu'on va avoir à chaque fois qu'on entend ce mot quoi et on va l'utiliser ce mot pour dire voilà des gens qui font des choses pas bien donc c'en est tu vois, genre
ouais, bah oui. C'est vraiment, on vit dans un monde de méchants et de gentils et de tu vois.
Après, je pense qu'on vit dans un monde de méchants et de gentils, mais par contre dans les discours c'est beaucoup plus complexe et les méchants sont très bons à intégrer les discours de gentils pour faire venir leurs idées et surtout utiliser le bon sens. Genre le bon sens c'est un gros genre quand t'as quelqu'un qui a du mal-être et tu lui dis par bon sens en fait tu devrais penser ça. Au bout d'un moment, t'es dans une logique de forcément, il y a des choses que je peux plus remettre en question parce que le bon sens.
Après, même des gentils, comme c'est un peu l'idée du film Le Joker, c'est que c'est un gentil qui devient horrible parce que la vie est tellement s'acharne sur lui qu'il Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. Après, je sais pas si vous aussi, mais.
Ah, tu l'as vu.
C'est à peu près ça que le film dit, oui, au final. Ouais.
C'est ça. Donc, tu vois, même un gars qui est gentil, il peut devenir le Joker, tu vois. Et c'est ça que t'explique le film. C'est que vraiment, il y a un process et qu'au final, c'est pas que c'est pas de sa faute. C'est clairement qu'il est responsable de ses actes. Mais c'est aussi de notre faute. Tu vois, on a aussi créé le Joker, tu vois.
Ouais, il y a vraiment ce côté de dans énormément de discours et surtout sur Internet et dans tous les discours qu'il y a à la télé constamment. Moi, il y a ce truc de la limite entre un discours qui va parler des individus et de leurs actions et un discours qui va parler de la société, ce que la société fait sur les gens, tout ce qui est sociologie, etc. Et ce qui est horrible, c'est que souvent, tu vas avoir des gens qui vont défendre les choses d'un point de vue de sociologie et qui vont se retrouver face à des gens qui disent non, en fait, genre, ils vont en parler d'une manière individuelle. C'est tout ce qui est, par exemple, à chaque fois qu'il y a un discours mainstream sur le racisme et où c'est genre, il y a des gens qui disent nous, on essaye de retourner le racisme pour montrer que c'est un truc de société. Et en fait, oui, mais vous ne pouvez pas parce que genre, ce n'est pas bien le racisme. Et individuellement, utiliser un discours, peu importe, genre c'est raciste, donc c'est pas bien. Et c'est vraiment un truc de, sur Internet, la différence entre individu et société, tu vois que genre personne se comprend, personne voit sur quel plan on parle. Et,
Moi j'ai tendance à pas voir les individus dans cette problématique. J'ai l'impression, automatiquement, mon cerveau va voir toujours les problèmes des actions de personnes comme des problèmes de société en fait. Mmh. Je vais jamais me braquer contre des gens ou m'énerver contre des gens. Je vais m'énerver sur le moment parce que la situation est difficile ou quoi, mais je vais vite avoir ce recul de me dire ouais, mais en même temps, ce gars m'a volé mon portable, c'est peut-être pour une raison, tu vois. C'est peut-être aussi quelque part un peu de ma faute. Parce que j'ai laissé mon... Non, parce que voilà, il y a un problème de société derrière et que... Est-ce que c'est vraiment contre lui que je dois m'énerver, quoi ?
Ouais, bien sûr, moi je suis d'accord. Hein.
Non, c'est contre Batman. c'est ça que le Joker raconte, non ?
Ouais, en plus, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu... Enfin, plus comme le père de Batman, en gros, c'est le vrai méchant dans le film. C'est ça le truc marrant.
Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et tu n'as plus besoin de voir Joker maintenant.
Ah ouais, désolé. Et désolé à tous les gens qu'on a spoilé, mais en même temps, c'est tellement un film qui a cartonné. Je me dis, si tu n'as pas vu, c'est un peu ta faute aussi. Ou peut-être
la
société.
De toute façon, je le connais, j'étais spoilé avant. Moi, je me spoil les films en fait. Genre, pour moi, c'est genre important de comprendre comment les gens en parlent, mais j'ai la flemme d'aller voir les films. Du coup, je regarde juste comment les gens en parlent, les commentaires, les critiques et les trucs comme ça, et surtout les films dont beaucoup de gens parlent. Et
ce serait tellement une bonne vanne. Je pense que t'as un terreau de vanne là-dessus.
Ah non, moi je méta-regarde. je méta-consomme en fait.
Tu mets ta vie.
Je mets ta vie.
Genre, tu peux parler de n'importe quel film, mais tu l'as jamais vu. Mais
je peux parler d'énormément de films que j'ai jamais vus. Je peux parler d'énormément de philosophes que j'ai jamais lus. Je peux parler d'énormément. En fait, je veux pouvoir parler d'énormément de choses, mais j'ai la flemme de me renseigner.
Malheureusement, on va plus pouvoir parler. On va terminer le podcast. Merci d'avoir participé.
Merci.
On a inauguré le studio Majorelle, qui est donc le studio que je lance avec Sarah, qui est en train d'enregistrer là-bas. Je vous avais déjà pitché l'idée, mais pour les gens qui écoutent, c'est un studio où vous pouvez venir enregistrer des podcasts. Donc c'est vraiment, ça s'adresse aux indépendants qui ont besoin d'enregistrer des podcasts dans un lieu spécifique, enfin dans un lieu où il n'y a pas de bruit. Souvent, il y a plein de gens qui enregistrent avec leur petit H4 dans un resto ou dans un café. C'est pas toujours ouf niveau son. On fait de la vidéo aussi, ça peut être un truc en plus pour des gens qui ont déjà des podcasts. Et puis nous, notre ambition aussi, c'est qu'il y ait plein de gens qui font pas de podcast parce qu'ils ont aucune connaissance technique ou un peu peur de se lancer tout simplement, qui viennent et puis qui testent et puis que ça crée des vocations ou en tout cas ça passe parler des gens. Tout à l'heure, il y avait le gars qui était avant moi, Ntoi, il fait des formations justement pour des gens en ligne, pour des gens qui veulent lancer des podcasts. Et il me disait, c'est incroyable, il y a des gens, ils l'appellent en mode, c'est mon rêve de lancer un podcast.
Ouais, putain.
C'était dit. Ah ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de barrières. Genre, c'est juste un micro, mais.
Non, mais ça marche. J'ai une pote, Anouk Perry, qui fait des podcasts et qui aussi fait des formations de podcasts. Ouais. Et il y a pas mal de gens que ça intéresse et qui.
Et puis, il y a tellement de gens qui ont des choses intéressantes à dire. Genre, il me disait, j'ai un gars, c'est un boulanger. Et il veut parler de boulangerie. Et c'est...
J'ai envie d'écouter un podcast de boulanger.
Tu vois, genre c'est tellement, je trouve que c'est tellement bien le
comme
fait
ça,
de.
Comme ça, tu pourras parler de comment faire du pain sans jamais avoir ni fait du pain, ni manger du pain.
Bon, bah parfait, c'était le mot de la fin. Ah oui, et pour.
Pourquoi Majorelle ?
Majorelle, c'est un peintre qui a vécu au Maroc pendant un moment et qui a laissé un endroit qui s'appelle le Jardin Majorelle, qui est un très beau jardin à Marrakech. Et on aimait bien le lieu, etc. Et les couleurs aussi. Donc on a repris les couleurs et le nom. Voilà. Et puis moi, je suis né au Maroc, donc c'est un peu une dédicace à ça. Et voilà. Puis le nom est cool, je trouve. Ah oui, dernier truc que je voulais dire pour les gens, petit détail technique, pour les gens qui s'intéressent d'enregistrer ici, ce qui est cool, c'est qu'on ne propose pas comme les studios en général des sessions à l'heure où tu payes l'heure, etc. Nous, c'est déjà le premier podcast est gratuit, donc si tu as envie de venir tester, tu n'as jamais fait podcast, tu viens gratuitement. Ensuite, les sessions d'enregistrement, elles ne sont pas limitées dans le temps. Tu peux venir enregistrer une heure, deux heures, trois heures si tu as envie. Et il y a la vidéo inclue, et ça coûte je vais donner les vrais prix, parce que c'est pas du tout professionnel, 44 euros par session d'enregistrement. Donc, et si tu veux faire plus d'un épisode par mois, ça devient intéressant, la formule abonnement qu'on propose, pour 97 euros, tu viens enregistrer autant de podcasts que tu veux, tu réserves la veille, et tu peux venir enregistrer des sessions de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et voilà, donc on a essayé de réfléchir cette logique de prix pour que ça puisse correspondre à vraiment, même le boulanger qui veut lancer son podcast, pour lui ça reste accessible, quoi. Voilà, merci beaucoup, et puis on se dit à très vite pour un prochain épisode de Blabla Clap.